toujours. Beaucoup de sujets de bien-être féminin sont encore tabous ou minorés. On n'évoque finalement pas, ou peu, notre fonctionnement cyclique et son impact sur notre qualité de vie, notre équilibre hormonal, le syndrome prémenstruel ou encore la périménopause. Et comme on n'en parle pas, on n'en sait pas grand-chose. Alors, nous avons décidé de partir à la rencontre de femmes de tout âge, avec des expériences très différentes, et de leur donner la parole sur leur rapport au corps et à leur cycle, ce que nous avons à cœur de nommer l'écologie corporelle féminine. Nous sommes Caroline et Anna, fondatrices de Millet. Vous écoutez un épisode de notre podcast Woman Body Ecology. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Peb, que je vais laisser se présenter. Et je vais commencer par te dire bonjour, Sarah.
Bonjour, Anna.
Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. En fait, l'idée, c'était vraiment, dans le cadre d'Octobre Rose, d'attirer l'attention sur les problématiques de cancer du sein. Toi, tu as écrit un livre à ce sujet dont tu vas nous parler et tu en parles très bien, avec beaucoup d'humour et sans tabou. Un discours clair, précis et souvent drôle. Et je voulais d'abord te parler de ce livre. Pourquoi tu l'as écrit? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, te laisser la parole sur le sujet.
Alors déjà, merci beaucoup de me donner la parole. C'est important pour moi justement de passer le relais et c'est comme ça qu'est né ce livre. Donc moi j'ai eu mon cancer à 30 ans, c'est un cancer du sein hormonodépendant et j'en ai très peu parlé pendant mes traitements, mais assez vite après le gros des traitements, j'ai eu soudainement le besoin vraiment essentiel de d'écrire ce qui m'était arrivé et de me dire quoi qu'il arrive je veux publier, je veux que ce soit un livre. Alors qu'à l'époque, j'étais plutôt sur scène avec des one-woman shows sur la loose de l'amour. Donc, je racontais d'autres déconvenues. La roue a tourné, je suis passée à la loose de la santé. Et ça n'a pas été évident d'en parler tout de suite sur scène. Donc, je jouais looseuse de l'amour quand j'ai écrit le livre, et quand il est sorti aussi d'ailleurs. Et voilà, j'avais pris des notes pendant les traitements de certaines petites remarques qu'on avait pu me faire, des médecins ou certaines étapes du parcours. J'ai pris des photos aussi. Et tout à coup, j'ai décidé de les réunir. Ça allait assez vite parce que il n'y avait pas grand-chose à inventer. Hein. C'est ce qui m'était arrivé. Donc, c'est vraiment un récit, comme tu dis, très cash pour le coup, comme je suis, je pense, sans détour. Mais parce que c'était important pour moi de me mettre à nu. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit, je l'écris pour des personnes qui seraient passées par la même chose. Ce que je pense qu'on peut se reconnaître. Ce que j'ai découvert par la suite qu'en effet, c'était le cas, qu'on se reconnaissait dans l'histoire, les histoires des unes et des autres. Et que, du coup, pour moi, c'était important de tout dire, et avec mon humour, parce que moi, ça m'a aidée. Moi, je me dis que tant qu'il y a du rire, il y a de la vie. Pas seulement parce que je suis humoriste par ailleurs, parce que j'ai été élevée comme ça, avec beaucoup d'humour dans ma famille, et que je trouve que c'est une belle arme pour se battre. Chacun a son arme, c'est la mienne.
Elle est pas mal, la tienne. Alors, précisons que le livre s'appelle « Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur ». Que dedans, tu décris pas mal de choses, notamment les relations avec le corps médical, le travail formidable que font les équipes et aussi parfois un peu de manque de psychologie, on va dire, de certains manipulateurs ou certains médecins. C'est évidemment hyper drôle. Il y a aussi les réactions de l'entourage avec le soutien des proches, les réactions des différents proches, le fait que finalement, le tri se fait de façon assez naturelle entre les amis qui vont arriver à accepter et à t'accompagner dans cette épreuve et ceux qui vont avoir plus de mal et avoir besoin de plus de distance. Raconte-nous un peu ça.
Alors, sur le réaction ou sur le corps médical aussi?
Les deux. Commence par le corps médical, c'est trop drôle.
On va commencer par le corps médical, c'est très beau. Alors, en fait, je suis arrivée au constat assez rapidement que pour un médecin, en fait, on n'était pas un homme ou une femme, on était un corps humain avec un problème qu'il fallait régler. Voilà, on est là pour ça et ils ne sont là que pour traiter ce problème et nous laisser repartir. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'au niveau, que ce soit d'ailleurs de ma féminité ou de ma douleur, rien n'était pris en compte. Et je raconte notamment dans le livre, je l'ai gardé dans le spectacle aussi, c'est que la veille de l'opération, on met une sonde dans le sein, ce qui permet le lendemain au chirurgien de localiser où est la tumeur. Et en fait, on m'avait précisé qu'on mettrait une anesthésie, enfin qu'on ferait une anesthésie pour le faire. Et là, je me suis retrouvée face à deux hommes qui m'ont dit « Non, on va pas faire l'anesthésie, c'est rien, franchement. En plus, ça va faire une piqûre de plus, ça fait pas mal. » Et j'avoue que oui, j'avais très envie de leur dire « Ah bon, puisque c'est pas mal, ça fait pas mal, en fait, moi, je vais prendre la sonde et je vais l'enfoncer. » Alors, je ne sais pas s'il y a des mots tabous ici, dans ton sexe, comme ça, je ne sais pas plus.
Non, il n'y a pas de tabou, vas-y.
Donc, voilà, je me suis retrouvée dans des situations comme ça. Alors, en plus, bêtement, ce jour-là, je les ai laissées faire parce que voilà, on n'est pas bien, on est un peu perturbé et tout. Et je me dis, bon, je suis pas chouchoute, mais on peut quand même s'éviter des moments de douleur ou des trucs. Et je pense qu'un autre grand moment, c'était un sujet sur la fertilité, parce qu'un cancer à 30 ans, le gros sujet quand même, c'est la fertilité. Et j'avais demandé en fait à Jean-Ri, parce que c'est vrai que franchement, avec le recul, c'est drôle. Mais donc, j'en parlais à mon oncologue et là, c'est un des échanges où on me dit « mais c'est pas possible, ça s'est pas passé comme ça, tu as changé ». Je dis « non, non, bah, parfois la réalité dépasse les fictions ». Et donc, je lui ai dit « bah voilà, est-ce que le traitement peut impacter ma fertilité ?» Il m'a dit « je ne comprends pas votre question ». Donc, je lui ai dit « bah, est-ce que le traitement peut impacter ma capacité à avoir des enfants ?» Je ne comprends pas votre question. Ok, bon, est-ce que je peux être stérile à cause de ce traitement? Et là, il me dit, est-ce que ça peut rendre stérile? Il dit, je ne sais pas, mais je vais me renseigner, je vous dirai. Je dis là, mais enfin, c'était juste surréaliste le dialogue de. En fait, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'était pas là pour ça, enfin, lui. Et puis, je remercie toujours mes médecins, enfin, je les remercie dans le livre, dans le spectacle, enfin, je suis là grâce à eux. Mais il y a, je trouve que certains moments, on pourrait avoir un peu plus de communication, que ça pourrait être plus fluide, parce que voilà, c'est toujours un peu.
Ouais, en fait, c'est parce que t'as insisté que t'as réussi à avoir une réponse.
Ah, mais c'est ça, oui. Et puis, en plus, une réponse, j'en ai pas vraiment eu parce qu'en fait, il m'a dit que les rayons, il savait pas, peut-être que oui, peut-être que non, et qu'il s'allait se renseigner. Et je me disais, attends, enfin, c'est quand même une grosse question, enfin. Et puis, pourquoi vous avez pas la réponse, en fait? C'est quand même incroyable. Alors, c'est vrai que j'avoue que dans sa salle d'attente, la moyenne d'âge était assez élevée, ils avaient tous un pied dans la tombe. Donc, je pense qu'il avait peu de patientes jeunes, mais donc c'est pour ça qu'il faut en parler. Voilà, un cancer jeune, malheureusement, il y en a beaucoup. Même j'ai croisé des filles qui étaient même plus jeunes que moi, bien plus jeunes, et c'est des vrais sujets. Et je connais des filles. Moi, après, j'ai dû me battre. Hein, ça, c'est le début, mais j'ai dû me battre pour congeler mes ovocytes. Et j'en parle parce que je trouve que c'est un sujet important.
Bien sûr.
Et j'ai rencontré, parce que grâce au fait que j'ai témoigné, j'ai fait très belles rencontres. C'est la plus belle chose grâce à tout ça, c'est la rencontre avec les femmes ou des hommes parfois qui sont passés par la même chose. Parce qu'on se reconnaît et que c'est facile. Enfin, je ne peux pas expliquer. Il y a un truc très fort de solidarité, de bienveillance. Et j'ai rencontré des femmes à qui on a dit « Non, on ne va pas vous prélever vos ovocytes, ce n'est pas possible » et qui ne l'ont pas fait. Et ce n'est pas normal. Il y a la possibilité de le faire en France et c'est important. Et moi, j'ai eu ce premier échange avec mon oncologue, mais après, j'ai dû me battre parce qu'on m'a dit « Il faut commencer les rayons ». J'ai dit « Je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas fait les ovocytes ». On m'a dit « Ce n'est pas vous qui décidez ». J'ai dit « Si, c'est mon corps, c'est moi qui décide ». Et j'ai dû me battre. Et je peux imaginer qu'il y ait des gens qui n'aient peut-être pas le même état d'esprit et tout, qui ne soient pas dans le combat et de dire « Si, battez-vous ». Parce que je sais que parfois, on peut être fatigué. Et battez-vous pour demander ça. Si vous le souhaitez, bien sûr, il y a des femmes qui souhaitent peut-être pas avoir d'enfants ou qui en ont peut-être déjà et c'est pas un sujet, mais au moins de savoir que c'est une possibilité, je trouve que c'est important d'en parler pour ça.
Précisons que tu as une jolie petite fille d'un an et demi aujourd'hui.
Voilà. Et donc c'est possible après. Ouais. C'est possible après. Et pour, parce que je suis désolée, je suis un peu longue, mais pour aller sur l'entourage, du coup, parce que tu me parlais des réactions. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a différents types de réactions. Moi, je me suis très peu ouverte sur le sujet. Je pense que j'ai bien fait. Je pense qu'on a des réflexes de protection, on sent peut-être. Et donc, j'en ai très peu parlé au début, mais vraiment très peu parlé. En clair, il y avait ma famille et mes amis proches. Et moi, j'ai eu l'annonce la veille de Noël. Je suis toujours joyeux Noël,
Félix.
Joyeux
Noël, ouais.
Yeah. Donc Noël, c'était grosse ambiance parce que j'ai appelé, en plus on fêtait un petit peu avant la date, le temps de réunir tout le monde. Donc j'ai appelé tout le monde en disant, enfin tout le monde, juste mes frères et sœurs, et j'ai dit voilà, j'ai ça, je souhaite pas en parler. Donc c'était très étrange parce que c'était, on le dit dans le spectacle d'ailleurs, c'est mon dernier Noël et tout le monde fait la fête. Enfin, c'est l'humour bien sûr, heureusement qu'on peut en rire. Et voilà, donc personne n'en a parlé, donc c'était très, très étrange. Mais moi c'est ce que je voulais surtout pas en parler. Et donc, pour le coup, l'entourage très proche a été super. Enfin, voilà, je suis très bien entourée, mais j'en parlais très peu. Et voilà, surtout ma mère qui était... Enfin, tout le monde a été très présent, mais moi, j'ai eu ma mère qui vraiment était là tout le temps, à chaque étape. Et ça, en revanche, il faut se faire accompagner. Moi, j'étais célib à l'époque, mais que ce soit votre copain, votre copine, enfin, selon votre cas, n'importe qui dans votre entourage qui peut être là, parce que ne serait-ce que pour les rendez-vous médecins ou quand il y a un échange comme ça avec l'oncologue, moi, je crois que ma mère a fini par poser la question autrement sur le truc de la fertilité. Donc bon, ça aide, et puis parce qu'on peut être chamboulé, et puis parce que moi, je suis la dernière à savoir demander de l'aide, mais parfois, il faut juste demander que quelqu'un soit là.
Tu le dis beaucoup dans ton livre, ça. Notamment sur la question du soutien et ensuite sur la question de si j'ai pas compris un truc pendant le rendez-vous, si le temps de poser, les médecins sont des gens très pris, il faut que toutes les questions aient été posées.
Il faut les lister avant. Moi, j'avais mon petit carnet, où j'ai noté tous mes trucs, et j'avais mon petit carnet à chaque fois. Je savais, ok, 3 minutes top chrono. Donc, j'ai ça, 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 ça et ça. Donc ça, faut vraiment pas hésiter. Et alors, sur les réactions maladroites. Non, déjà, juste un truc sur si vous vous demandez quoi faire, parce que c'est ce qu'on me demande souvent, donc si ça peut vous aider. J'ai pas de recette miracle, donc ça va pas vous aider. Mais si quelqu'un vous annonce que c'est souvent quelque chose qu'on me demande après avoir lu le livre ou avoir vu le spectacle, et voilà, j'ai une amie, on lui a détecté un cancer, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'aider, qu'est-ce que je peux lui dire? Et je dis déjà, soyez là. Moi, j'en connais qui sont partis, c'était facile ce que tu disais tout à l'heure, enfin, le tri se fait. Les gens, ils partent tout seuls. La maladie, ça fait peur. À 30 ans, peut-être encore plus, je sais pas. Mais ça fait peur. C'est peut-être pas naturel, encore moins naturel, peut-être que plus âgé. Si tant est que la maladie soit naturelle à un âge ou à un autre. Et donc, bon, le tri se fait. Mais juste, enfin là, d'être là. Les gens qui sont là, déjà, c'est énorme. Et de pas changer. Moi, je sais que ma maman m'a dit une fois, elle a dit, bah voilà, j'ai pas changé. C'est quelqu'un qui te posait la question, parce qu'on avait fait une interview toutes les deux, un truc avec Sophie d'avant. Elle avait dit, mais moi, j'ai pas changé. Mon truc, ça a été de pas changer ma relation avec ma fille. Et c'est ça. Et en fait, c'est d'être là, c'est de continuer à proposer voir l'autre, c'est de raconter sa vie. Moi, j'ai appelé ma mère et je dis, raconte-moi. Les moments où je craquais, je faisais ça, en fait. Je disais, ah, ça va. Et elle sentait à ma voix, elle m'en racontait plein de choses. Je raccrochais, elle m'avait raconté ses trucs et ça allait. Je pouvais repartir. Donc, d'être là, de continuer à proposer des trucs et tout. Et les réactions maladroites, alors, ça arrive. Avec le recul, je les comprends un peu mieux. Mais bon, c'est vrai, quand on dit qu'un cancer du sang, c'est pas grave et que ça soigne comme une grippe, il faut quand même être un peu abruti, pardon, mais voilà. Alors, c'est de la maladresse, hein, parce ouais. que la maladie fait peur. Donc, il y a ceux qui partent et ceux qui vont être maladroits. Qu'est-ce qu'on préfère?
Moi, ceux qui sont maladroits.
On est d'accord.
Voilà.
Mais ne comparez pas à la grippe, voilà.
Non, ça, d'ailleurs, dans le livre, tu dis, mais si tu veux, je t'échange ta grippe contre mon cancer. C'est
voilà,
assez drôle.
C'est ouais. ça. Moi, je veux bien. Ouais, ça fatigue la grippe, mais ça part plus vite, quand même.
On essaye de dédramatiser, effectivement. Et alors, le parcours, parce qu'on va en parler un peu. Il y a eu donc une opération qui s'est faite assez rapidement après ouais. le diagnostic.
Oui. Alors oui et non, parce que ça s'est fait au bout d'un mois. Mais c'est la trêve des confiseurs en France. Comme ouais, on l'a dit avant Noël, on m'a opéré le 15 janvier. Mais bon, ça va, c'était pas non plus... mais oui, c'est allé, on va se dire... Enfin ouais, je me suis fait opérer en début d'année, après Noël, après les fêtes.
Et après, on a enchaîné la radiothérapie.
Oui, sauf que j'ai fait ma conservation d'ovocytes, donc entre les deux, c'est là où ils voulaient pas attendre. Et ouais, j'ai eu la radiothérapie, j'ai eu énormément de chance. J'ai pas eu de chimio, ce qui est rare quand on est jeune. Et voilà, parce que j'avais une tumeur qui était hormonale et qui n'avait que 30% de capacité reproductrice. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est ce que ça veut dire en tout cas.
Donc, qui se développait doucement.
Qui avait moins de risque, ouais, de se redévelopper.
D'accord.
Je suis désolée s'il y a des oncologues qui écoutent, c'est pas les bons termes, mais c'est pas grave. Au moins tout le monde les comprend. Parce que tout médecin ne peut pas se vanter.
C'est bon, un discours faire. Audible.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Un site de tous. Donc voilà, j'ai eu énormément de chance et donc j'ai fait 3 mois et demi de rayon tous les jours.
Tous les jours?
Ouais. Tous les jours sauf le week-end. C'est ça qui est long avec la radiothérapie, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la chimio, qui est beaucoup plus dure, parce que la chimio, c'est dans tout le corps, enfin, c'est vraiment très, très lourd. La radiothérapie, en fait, c'est plus sur la durée que c'est usant, c'est-à-dire qu'au début, en effet, on se dit, c'est bon, c'est rapide, mais bon, c'est pas anodin. C'est pas pour rien que les radiologues, ils se barricadent derrière la vitre quand on passe les radios, et qu'on peut pas en passer enceinte, ou alors dans des cas, vraiment des cas exceptionnels. Donc, c'est pas anodin et ça a quelques effets secondaires. Donc, pour que ça, si ça vous arrive, c'est normal d'avoir des nausées, parce que moi, on m'a dit que non. Mais en fait, si.
Alors, donc, raconte le coup
voilà.
du schéma.
Non, ben voilà, non, mais c'est parce qu'en fait, je disais à mon oncologue que j'avais des nausées suite au rayon. Et donc, il m'a dit que c'était pas possible. Et j'ai dit, bah, si, en fait, c'est possible. T'es pas loin de me dire que c'était psychologique. Et donc, là, il m'a fait un dessin. Il m'a dit, bah, voyez, donc là, il m'a dessiné mes seins. Il m'a dit, bah, ça, c'est vos seins. Voilà, je les ai fait un peu plus gros. Et donc là, c'est l'estomac. Et il a dessiné comme ça des traits qui allaient justement, en fait, pile dessin vers l'estomac. Donc, c'est ça qui était très drôle. En me disant, bah, voilà, ça n'a pas de rapport. Mais voilà, faut quand même y aller. Donc aussi, c'est normal, et j'en ai parlé avec d'autres femmes, on peut avoir des nausées, pas toutes, hein. C'est de la fatigue toute, je pense, et après, bien sûr, chacun a des effets.
Donc tous les matins, à l'hôpital, au moins
Voilà, alors moi je faisais le matin parce que je jouais le soir, en fait, j'ai jamais autant bossé qu'à ce moment-là, j'étais sur plusieurs projets, pas que mon spectacle de One Woman Show à l'époque, mais sur d'autres projets. Et donc oui, je faisais le matin pour comme ça fatiguer un peu pour pouvoir être en forme le soir. Donc voilà, ça c'était tous les matins pendant 3 mois et demi. Et après, bah c'est 50 traitements hormonaux. Donc là, c'est pareil, c'est un truc qu'on nous file comme si c'était de la vitamine, mmh. alors que bah, ça met en ménopause artificielle. On a les effets de la ménopause et de la femme enceinte, alors qu'on n'a pas le droit de tomber enceinte pendant 5 ans, c'est un peu dommage. Et que la ménopause, bah, on va dire qu'on sait en avance quels sont les effets, mais on s'en passerait. Mmh. Donc, les bouffées de chaleur, on pleure pour rien. Une fois, je ne retrouvais pas mon pull. Je me suis énervée, puis quand je l'ai trouvé, j'ai pleuré. Voilà, des trucs comme ça. Et ça a pas mal d'effets. Ça peut causer malheureusement d'autres cancers, aussi un cancer de l'endomètre. J'ai malheureusement rencontré une femme qui est une étoile, à laquelle je pense maintenant, qui est au ciel, qui a eu un cancer de l'endomètre à cause de ce médicament, de tamoxifène. Après, voilà, c'est un traitement qui est censé prévenir les récidives. Comprend. Alors moi, c'était 5 ans maintenant, et certaines femmes, c'est passé à 10 ans. Voilà, après, faire attention à ce qu'on dit sur les médicaments, c'est vraiment un traitement important qui permet en effet d'empêcher les récidives, de protéger pendant les années juste après, qui sont a priori les moments de plus gros risque, touche du bois. Mais c'est vrai que voilà, ça a plein d'effets qu'on ne prévient pas. Et quand on regarde la notice, on voit tous les trucs. Donc il y a cancer de l'endomètre, kyste de l'ovaire, ça c'est ce qui m'est arrivé, et plein d'autres trucs sympas. Voilà, comme tous les traitements lourds, en même temps, j'ai envie de dire. Hein.
Comme tous les médicaments qui marchent, des effets secondaires.
Voilà.
D'accord. Donc, un parcours du combattant qui aura duré quoi, 6, 7 ans ?
Ouais, à peu près, ouais.
Dans lequel tu n'as jamais arrêté de travailler ?
Non.
Tu as même beaucoup plus travaillé
ouais.
que...
Oui, finalement, bah, j'ai...
C'était ta respiration ?
Bah, ça a été ça. Et puis surtout, je sais qu'en plein milieu... Enfin, quand j'ai eu l'annonce, j'étais sur un projet où... je devais jouer avec une troupe Manon des Sources et je devais jouer le rôle titre, Manon. C'est d'ailleurs Céline Masse, que tu connais aussi peut-être. Non, vous n'êtes pas croisée
si,
chez
si,
Publicis,
tout à fait.
Qui ouais. mettait en scène.
Ouais.
Donc, je lui ai dit, parce que je trouvais ça plus honnête de le dire, elle m'a dit « Est-ce que tu veux qu'on reporte ?» J'ai dit « Surtout pas, surtout pas. » Et voilà, en effet, ça a été ma respiration, c'est ce qui m'a fait tenir. Et j'étais ça, donc j'avais mon premier one-man show qui était les 7 conseils pour trouver le bon mec et le garder. Parce qu'il n'avait pas encore marché sur moi, mais ça marchera un jour, j'espère. Et puis, j'étais dans une autre pièce, Gloire au Juste. Enfin, voilà, j'ai tourné une web série aussi à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de projets, mais oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Finalement, bah, j'ai écrit le livre, j'ai écrit un deuxième spectacle.
Sur ton parcours avec le cancer.
Oui, alors j'ai écrit un deuxième spectacle sur la loseuse de l'amour, parce que tu vois, un, ça suffisait pas,
ouais.
qui s'appelait Loseuse de l'amour.
Je crois que je l'ai vu le deuxième.
Oui, je crois ouais. que c'est là que t'es venue, ouais. que j'ai joué au Paname.
Ouais.
Et puis, cas surprise, donc c'est le spectacle, je l'ai créé en 2017. Et en fait, on a adapté le livre avec, enfin, on est parti du livre parce que c'était mon histoire, mais avec Elise McLeod, qui est aussi ma metteur en scène. Et ça m'a aidé de le faire avec quelqu'un qui avait beaucoup de proches qui avaient été touchés par le cancer, mais qui n'était pas directement, qui avait plus de recul, pour que de mon histoire, on essaye le plus possible de toucher le plus de personnes concernées, puisque c'était le but. Et donc, toujours avec mon humour, parce que c'est important. Enfin, voilà, moi, ça a vraiment été mon arme. Et c'est, je trouve que ça permet de parler de la maladie autrement. Enfin, voilà, si on parle du cancer durement, je trouve que le mot est déjà dur. Donc, on le prononce et j'en parte. Donc, voilà.
Il y a des gens qui disent la grosse maladie.
Ah, c'est
Ma
vrai
Ma belle-mère, elle dit la grosse maladie. Elle dit jamais
ah,
cancer.
Ah, c'est drôle, j'ai jamais entendu ça.
Voilà.
J'ai entendu plein de trucs à la grosse maladie. Donc voilà. Et le spectacle, donc, bah, je joue depuis 2017, en fait. Et je montre aussi, parce que ça, c'est important pour moi de le dire, c'est comme tu le disais dans le livre, enfin, il y a mon humour, mais il y a d'autres choses aussi, c'est-à-dire que je me mets à nu, comme dans le livre, dans le spectacle. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de montrer des choses que j'avais même cachées à mon entourage, qui l'ont découvert avec le spectacle, des moments où on craque, parce que moi, je craquais jamais, enfin, vraiment très, très rarement devant mes proches. Donc, parfois, j'étais avec des amis, je suis allée me cacher pour pleurer. Bah, ça, je voulais le montrer sur scène, pour que les gens voient aussi. Je voulais montrer les moments de colère. Il y a un moment où juste j'explose parce que c'est trop. Et c'était important de le montrer. Maintenant, il n'y a pas du tout de pathos. C'était juste pour moi d'être honnête et de ne pas dire qu'il n'y avait que l'humour parce que ce serait pas réel. Et puis aussi de montrer la vie qui continue. C'est-à-dire que dans le spectacle, il n'y a pas que le parcours médical, il y a la vie qui continue en parallèle. Il y a le boulot, il y a les amis, parfois maladroits, parfois souvent là. Et puis, il y a aussi la quête de l'amour, parce que c'est peut-être le fil entre mes trois spectacles, mais c'est pas parce qu'on est malade qu'on cherche plus l'amour. En revanche, on cherche différemment. Et tout à coup, on se rend compte que quelqu'un qui nous veut du bien, bah, c'est mieux, parce qu'on s'aime un peu plus grâce à tout ça. Donc, il y a ça aussi. Et voilà, le spectacle, c'est une ode à la vie pour moi, littéralement. Et j'espère que...
Que tu as envie de diffuser, donner ouais. espoir et témoignages
ouais.
à des femmes à qui c'est arrivé et à des femmes à qui ce n'est pas arrivé, mais qui ont envie de savoir.
Ouais, parce que je pense que ça, on a tous eu des épreuves, donc je pense que les personnes peuvent se retrouver. Et alors, bien sûr, moi, le point de départ, c'est vraiment les personnes qui ont été touchées, parce que pour moi, c'est le plus important, c'est le point de départ. Et c'est l'entourage aussi, qui ne sait pas beaucoup de choses ou qui ne sait pas tout. Mais oui, plus largement, c'est un peu, ça s'adresse un peu à tous, parce que les épreuves nous changent, donc c'en est une qui nous change. Et que une fois, même quelqu'un m'avait dit, bah, merci, ça me fait relativiser certaines choses, bah, super. Si ça donne un autre regard sur la vie, si ça permet de profiter sans être passé par là, bah, tant mieux si je peux aider à ça aussi.
On l'a dit, tu as aujourd'hui une petite fille splendide et ça va mieux. Je touche ma tête en disant ça. Et maintenant, moi, j'ai quelques questions à te poser sur l'après, en fait. Sur la question de, après avoir traversé cette épreuve, après avoir été touchée dans l'intégrité de ton corps, en fait, à un âge où, effectivement, ce genre de maladie, ça vient pas à 30 ans. Des femmes ont des cancers du sein jeune, mais c'est pas la norme, on va dire. Qu'est devenu ton rapport au corps? Comment aujourd'hui tu prends soin de lui? Est-ce que tu arrives à prendre soin de lui et comment tu le fais?
Alors, c'est vrai que le rapport au corps change. Je disais ça d'une amie, on s'appelle un peu les sœurs de combat ou les amica fighters quand on est passé par la même chose. Et elle disait qu'elle lui avait dit un truc que je n'ai pas encore fait, c'est de lui dire merci à ce corps qui s'est battu. Et donc, c'est vrai qu'en tout cas, je trouve qu'on s'aime un peu plus grâce à cette épreuve et qu'on prend davantage soin de soi. Alors après, j'en suis pas à me dire, parce que moi qui fais un massage par an, je me dis à chaque fois, mais je dois pas me faire des massages souvent. Ça fait du bien et pas juste en offrir aux copines ou en faire pour des occasions exceptionnelles ou parce qu'on a un bon cadeau, mais s'offrir ça. Mais je prends quand même soin de moi. Enfin, je sais que j'ai eu plein de trucs de circulation à cause de tous les traitements, etc. Donc, je vois une kiné déjà pour ça régulièrement. Je fais attention aux produits que j'utilise. Je fais attention à prendre des produits neutres, très hydratants, parce que bon, voilà, avec il y a plein de sujets un peu tabous quand on a un cancer à 30 ans. Enfin, je pense que plus tard c'est pareil, mais il y a des trucs de sécheresse, il y a plein de choses. Alors, on parle toujours de sécheresse vaginale, mais il y a la sécheresse du corps en fait. Moi, j'avais déjà la peau sèche, ça l'a rendue encore plus sèche. Donc, faire attention, je mets des crèmes, je fais très attention quand même à ce que je mets donc aux produits, et je fais attention à bien m'hydrater. J'essaie de faire toutes les étapes des trucs pour le visage, là, de laver, de mettre le tonique après, de mettre le sérum,
de faire des
anti-âge parce qu'on
va élaborer.
Voilà, j'essaye avec que des produits où je fais attention et tout. Et puis, je fais attention à avoir une activité physique. J'ai découvert le yoga Kundalini il y a quelques années, j'adore ça. Parce qu'il y a un côté aussi, on parlait tout à l'heure mantra, enfin voilà, moi j'aime beaucoup les mantras aussi. J'ai trouvé une prof géniale. Qui m'a aidée, je pense aussi, à avoir ma fille, parce que voilà, elle est hyper bienveillante, elle est boostante, et puis il y a ce côté où on lie le corps à l'esprit, et il y a toujours des mantras positifs, on se débarrasse de toutes les choses négatives, on se concentre sur le positif. Et puis je fais attention à mon alimentation aussi, beaucoup, parce que quand on a eu un cancer hormonal, bah, il faut éviter tout ce qui est hormonal dans l'alimentation aussi, donc je prends plus de lait de vache depuis. Il y a plein de choses qu'on peut prendre à la place, le lait de brebis, hein, parce que le lait de chèvre c'est possible pour moi en tout cas. Et voilà, les laits végétaux, moins de viande, très peu de viande rouge, pas de soja, surtout pas de soja. Et voilà, faire attention. Oui, je pense que j'apprends à prendre soin de moi. Après, je suis comme tout le monde, hein, on est souvent meilleur conseiller, meilleur conseiller et que pour soi-même, mais parce que j'ai toujours aux autres de prendre soin d'eux. Mais je pense quand même on apprend, et on apprend à aimer plus son corps et avec le temps aussi.
Et à l'écouter.
Et à l'écouter aussi, oui.
Et le bien-être aujourd'hui, ça passe par quoi? C'est pour un corps éprouvé comme ça, qu'est-ce qui te fait du bien, quoi?
Eh bien, alors, je pense que je devrais faire plus de massages.
Ah, on en revient au massage.
Il faut vraiment que je prenne rendez-vous. Mais non, parce qu'en fait, je trouve que d'accepter que quelqu'un prenne soin de soi, c'est assez incroyable. Et j'avais rencontré en fait une socio-esthéticienne. Alors, j'ai pas du tout connu ça pendant ces traitements, mais s'il y a des personnes en traitement, renseignez-vous si dans le centre où vous êtes soigné, il y a quelqu'un comme ça. Parce que les socio-esthéticiennes, en fait, elles ont une formation d'esthéticienne et aussi une formation ensuite aux différentes pathologies. Et donc, je m'en rappellerai toujours parce qu'elle a pris ma main et tout à coup, enfin, je me suis sentie comprise. En fait, elle avait juste fait un massage de la main et je sentais qu'elle avait une connaissance, une appréhension de ce que j'avais pu vivre, des douleurs, de plein de choses, des traitements que j'avais encore, etc. Je trouve ça assez exceptionnel. Donc, en fait, tout à coup, c'est pas juste un massage, en fait. C'est un massage guérisseur, si on peut dire ça comme ça, mais il y a quelque chose de très fort qui se passe. Donc, moi, c'est des choses que je conseillerais aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai fait appel plus tard et pas quand j'étais en plein dans les traitements, alors qu'en fait, on n'est pas obligé d'attendre d'être malade pour... faut pas attendre l'après pour prendre soin de soi. Enfin, il faut pas attendre, en fait, pour prendre soin de soi tout de suite.
Mais toi, tu dis laisser l'accès à un tiers à ton corps et ouais, continuer les manipulations, quoi.
Bah, je pense que ça peut aider. Après, c'est parce que je trouve que pour soi, sinon, on prend moins de temps. Enfin, le temps, je le prends plus. Je trouve avec le yoga, un peu avec la méditation. Alors, je ne sais pas faire seule encore, hein, mais c'est méditation, un peu yoga que je fais. C'est un peu plus, voilà, avec la même prof. Mais c'est plus de prendre du temps pour soi et puis de... Mais ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est... C'est un travail à vie, j'ai l'impression de... Parce qu'il y a... Il y a quelque chose qui est décuplé après la maladie, c'est que on a l'impression que le temps nous est compté un peu plus que pour d'autres, ce qui est peut-être bête, mais c'est comme ça. Du coup, moi, j'étais déjà hyperactive et ça a un peu renforcé ça. Et avec plein de... On a un groupe de jeunes avoir été touchés à peu près au même âge. Et on partage beaucoup ça, ce truc de, du coup, bosser, de vouloir être sur plein de projets, de faire plein de choses. Et donc, on peut parfois s'oublier. Donc, moi, pour être honnête, ça peut m'arriver de tirer trop sur la corde et tout à coup d'être rappelé. Donc, après, je trouve qu'il faut apprendre à...
D'être rappelé par son corps.
Un équilibre. Ouais, c'est ça. Là, tout à coup, le corps lâche, par exemple, je suis jamais malade. Donc, quand tout à coup, j'ai un rhume, enfin, une sinusite, quelque chose, c'est que tout à coup, mon corps dit, ouh, tu t'es oublié.
Et d'apprendre à l'écouter.
Ouais,
en fait,
c'est ça.
Tu décodes aussi. Il y a une d'apprendre à décoder les signaux que ton propre corps t'envoie.
Ouais. Et d'apprendre et de se dire qu'en fait c'est ok de s'arrêter. Moi, c'est un truc d'éducation aussi, je pense. On m'a beaucoup appris travail, et que quand j'ai choisi de bifurquer, d'aller enfin vers mes premières amours, donc le théâtre, le cinéma, enfin d'être comédienne, je me suis mise encore plus la pression en me disant attends, c'est un métier où on pourrait se dire tiens, mais il faut que je travaille encore plus parce que il faut apprendre. Mais je trouve qu'on apprend avec le temps et puis qu'avec un enfant, on apprend aussi, quoi. Tout à coup, profiter plus de l'instant présent. Et puis, de toute façon, grâce à l'épreuve, on profite plus de l'instant présent. On sait que ça peut s'arrêter demain, donc on profite d'aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on n'a pas comme tout le monde des jours, des jours où je me réveille, où je suis pas au top, mais globalement, de se dire déjà qu'on est en vie et qu'il y a plein d'étoiles qui malheureusement rejoignent le ciel, c'est une telle chance que ne serait-ce que pour elles, il faut profiter. D'ici et de maintenant.
T'as un mantra?
Oui.
C'est quoi?
C'est never give up. N'abandonnez jamais.
Ça va. En tant que cafaiteuse, on te retrouve bien dans ce mantra.
Oui.
Merci Sarah. Est-ce qu'il y a des sujets? Ah, d'abord, on a dit qu'on précisait quand est-ce que tu jouais.
Ah oui. Donc mon spectacle, c'est K surprise. Ça surprend toujours un peu, mais c'est K, c'est la lettre K. On n'a pas le cancer
Kinder
comme ça entre nous. Mais il y a un côté Kinder surprise du traitement aussi. Oui, un petit jeu de mots. Et je vais jouer le lundi 18 octobre à 20h à la Comédie Montorgueil, qui est rue du Sentier. Et les places se trouvent sur Billard et Duc ou autrement sur les réseaux sociaux pour trouver les liens. Et je vais jouer aussi, s'il y a des personnes dans le sud-ouest, je vais jouer le 7 octobre à Tonneins et le 15 octobre à Cazobon, Barbotan-les-Termes et le 16 octobre à Pavie. Voilà, c'est ça. Voilà, et je finis par le 18 octobre à la Comédie Montorgueil.
D'accord. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu as envie d'aborder, que la question que je t'ai pas posée, à laquelle tu avais très envie de répondre?
Il y a juste deux petites choses très rapides. Oui. C'est les filles, allez chez votre gynéco, s'il vous plaît. Faites-vous des contrôles. Moi, on a détecté mon cancer parce que j'avais plus d'ordonnance pour ma pilule. Et si je m'étais fait juste dépanner à la pharmacie, je serais peut-être pas là pour vous parler. Donc, c'est pas pour vous faire peur, mais juste prenez soin de vous. Et prendre soin de soi, c'est aussi aller régulièrement chez sa gynéco. Et l'autre chose, c'est une citation que j'aime beaucoup qui dit que sans pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc, après tout ça, mon arc-en-ciel, ça a été mon bébé. Donc, je vous souhaite plein d'arc-en-ciel. Et que si un enfant, c'est possible après un cancer, tout est possible. Donc, croyez dans vos rêves, tout simplement.
Merci Sarah Pebb.
Merci Anna.